Radio FR.
La cafette.
La cafette.
Bienvenue pour cette deuxième partie d'émission. Irenka Cronet, notre invitée, pour cette deuxième partie de la matinée. Elle s'exprimera demain soir à Frisson, peut-être sur votre écran, si vous avez votre billet, pour les conférences TEDx qui sont proposées à Fribourg sur le thème Punk. Punk Go Futur. Je suis ravie de vous accueillir ce matin, Irenka Cronet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour vous présenter, c'est déjà toute une histoire, j'ai envie de dire. Vous êtes une femme très active, vous êtes docteur en économie, vous avez cofondé l'association PTO, Part-Time Optimization, dont vous êtes la directrice depuis 2016. Là, ça nous permet de tout savoir sur le job sharing. Vous avez cofondé aussi... oui, vous voulez déjà me corriger ? Non. Vous êtes également cofondatrice de la société WeJobShare, où là, c'est du concret. On peut rechercher son, sa partenaire professionnel. Vous avez écrit un livre en 2011 sur le travail à temps partiel. Et puis, aujourd'hui également, vous êtes à la direction de Sinfo, c'est comme ça qu'on dit ?
Sinfo, oui.
Ouais. Vous nous expliquez
membre
de quoi il s'agit ?
Direction, pas d'accord. Direction, oui, membre. Oui. Oui, Sinfo, c'est le centre de compétences du marché du travail de la coopération internationale.
Voilà. Et puis, vous avez aussi été longtemps à la SECO.
SECO, oui, tout à fait, pendant plusieurs années, tout à fait.
C'est juste. Donc, est-ce que...
En job sharing aussi. Depuis 13 ans, en job sharing.
Ouais, on va parler de job sharing. Mais d'abord, juste pour vous cerner un peu, Irenka, vous avez toujours été comme ça, c'est votre personnalité très active, curieuse, à développer des choses, à aller un peu dans tous les sens.
C'est marrant, c'est une question que je me suis posée souvent et je crois vous dire oui, déjà quand j'étais étudiante. Je crois que c'est la diversité qui m'a toujours attirée et le côté collaboratif. Mmh. On en parlera après, mais c'est ça. Quand vous dites moi, en fait, c'est pas moi, c'est nous derrière. Hein. On est tout plein de personnes à l'arrière-plan et c'est ce côté collaboratif et ce changement aussi de sujet dans notre monde qui est quand même très large. Mmh. Donc oui, je peux répondre. Je pense que j'ai été un peu comme ça déjà comme étudiante. Oui.
Alors, vous avez vu, j'ai bien de la peine à dévoiler une partie de votre CV. Quand on le voit, votre CV, c'est vrai qu'on peut penser que vous donnez 200% de temps à votre travail. Or, vous êtes une maman, vous avez fait 3 enfants, il n'y a pas que le travail.
Oui, bien sûr, et c'est important puisque j'ai démarré aussi dans tout ce partage d'emploi, le job sharing, il y a 13 ans pour cette raison-ci, puisque mes enfants étaient encore petits à l'époque. Et c'est vrai que c'était l'une des choses importantes pour moi dans ma vie aussi, de pouvoir trouver des moments qui soient différents du travail. Mais c'est vrai que si on est engagé, vous l'êtes aussi comme journaliste, vous avez tellement d'activités, ben, je crois que des fois on oublie un petit peu ce concept du temps, et puis on est très pris par ce qu'on aime. Je pense que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Le temps vient différemment, on le perçoit différemment quand on aime ce qu'on fait.
C'est tout à fait vrai. Donc, à la base, c'était plus une démarche personnelle, ces recherches, ce développement de job sharing.
Alors, au départ, c'était ma thèse, vous l'avez évoqué avant, j'ai fait une thèse de doctorat sur le domaine, sur le thème du temps partiel en Suisse. J'étais un peu révoltée quand j'avais la trentaine, j'avais mon premier enfant. Je m'étais rendu compte que sur le marché du travail, tout changeait. Hein. Vous devenez maman, tout d'un coup, on ne vous propose plus les mêmes postes. Mm-hmm. Vous expliquez que vous voulez faire du temps partiel et je voyais que c'était un piège. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser et je me rappelle, j'avais cherché un prof, c'était un professeur qui est aujourd'hui recteur à l'Uni de Genève, Yves Fukiger, et qui m'avait accepté comme doctorante alors que je travaillais en parallèle encore au SECO et j'ai pu démarrer cette recherche dans ce contexte-là et c'était la base en fait après de cette promotion du job sharing parce que mes conclusions, ma thèse montraient qu'il fallait changer pas mal de choses en Suisse par rapport au marché de l'emploi.
Ça c'était il y a 10 ans.
C'était il y a plus de 10 ans déjà, oui, ouais, tout à fait.
Juste...
Oui.
Alors on parle de job sharing et puis on s'était dit avant l'émission qu'on allait vraiment faire une petite parenthèse vocabulaire parce que c'est vrai que moi aussi en me renseignant pour cette émission, je pense que job sharing... C'est facile à traduire, on partage son travail, mais il y a aussi le top sharing, on parle de slasher, de slasheuse, il y a tout un vocabulaire qui est lié à ce job sharing.
Tout à fait, vous avez raison d'insister qu'on emploie trop d'anglicisme, c'est un petit peu notre défaut que nous avons aussi. Job sharing veut dire un partage de poste qui est souvent à 100% en annonce et qui est partagé par 2 voire 3 personnes qui se partagent l'emploi et qui sont surtout co-responsables. La grande différence avec une juxtaposition de temps partiel, c'est que les 2 personnes postulent ensemble, ont une vision commune et visent justement à copartager une fonction. Et le top sharing, c'est tout simple, c'est du top. Dès que vous avez une fonction de conduite, que vous conduisez des collaborateurs, on appelle ça du top sharing parce que c'est un peu plus complexe de faire un top sharing qu'un job sharing vu la relation que vous avez aussi dans un team, dans une équipe de travail.
Et puis les slasheurs, slasheuses ?
Slasher vient aussi des États-Unis comme le job sharing qui a été en fait créé en 1970 1976, hein, le nom de job sharing. Slasher est plus récent, vient d'une économiste aussi américaine qui a parlé de slash careers, qui vient de la barre oblique, slash, qui signifie qu'on peut juxtaposer des emplois. Pas seulement par besoin économique, parce que ça a toujours existé, que vous avez quelqu'un qui était serveur dans un bistrot, à côté travaillait, il fallait se rémunérer comme ça. Là, c'est vraiment par demande, soi-même par volonté. On s'intéresse à plusieurs domaines et ce qu'on remarque de plus en plus aujourd'hui en Suisse et aussi à l'étranger, c'est des gens qui sont salariés dans un poste d'occupation et indépendants. Ben, c'est un peu mon cas, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et le slash prend la proportion parce que les gens plus jeunes sont beaucoup plus avides de créer une entreprise et parfois ils ont un peu peur aussi financièrement. Donc c'est une sorte d'intermédiaire dans ces deux mondes-là.
Il y a encore juste un terme parce que c'est vrai qu'à Fribourg par exemple, on connaît plusieurs bureaux de co-sharing. Donc co-sharing n'est pas job sharing.
Non, les co-working, c'est des co-working spaces.
Oui, pardon,
c'est des
co-working.
Attends, ça c'est tout à fait autre chose. Les co-working, c'est uniquement des places de travail qu'on va partager. Mm-hmm. Alors, il y a Co-working Switzerland, une des plus grandes antennes qui est un petit peu au-dessus de tout ce qu'on voit à Fribourg. Là, vous avez Vibration à Fribourg, vous en avez plusieurs qui travaillent comme ça. L'avantage, c'est qu'on économise des coûts. Mm-hmm. On n'a plus besoin d'un bureau, moins de coûts fixes et on peut y aller, on fait des conférences, des séances. Nous qui travaillons quasiment sans coûts fixes, puisqu'on est toutes en ligne, on travaille sur demande en ligne. Alors parfois, on fait nos séances aussi dans des co-working.
Mm-hmm. Est-ce que quand on fait du job sharing, on ne travaille qu'en ligne finalement? Ça prend aussi un certain essor aujourd'hui parce que les technologies font qu'on peut travailler n'importe où, à n'importe quel moment, échanger toutes les données qu'on a.
Non, alors pas du tout, au contraire. Le job sharing était toujours dans le concept du présentiel au
D'accord.
départ. C'était pour éviter justement, vous savez, un chef d'entreprise, souvent il est irrité, ou une chef d'entreprise est irritée souvent qu'il y a trop de travailleurs à temps partiel. Mmh. Alors on ne sait plus comment faire, le lundi l'un est là, le mardi l'autre est là. Mmh. Et dans le job sharing, l'avantage, c'est que tout d'un coup, on a deux personnes qui vont couvrir du lundi au vendredi la présence. Maintenant, avec tout ce qui est numérisation, avec le Covid, ce qu'on a vécu tous, le home office a pris beaucoup plus ampleur. Mm-hmm. Il était déjà comme ça avant. Moi, j'en fais depuis presque 20 ans dans mon domaine. Donc, ça existe toujours. Mais c'est souvent en présentiel qu'on travaille en job sharing, mais pas ensemble. Donc, on est toujours séparés au niveau des jours de travail, puisque quand moi, je suis là, ma collègue est absente et vice-versa. Mais le grand avantage aujourd'hui par rapport à autrefois, c'est qu'avec la numérisation, on est capable de se connecter en quelques fractions de secondes. J'ai travaillé, par exemple, je vous donne un exemple concret, 9 ans au secrétaire d'État à l'économie, au SECO, dans le milieu international. On était sur des marchés comme au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, au Ghana. Ma collègue était à Berne, j'étais à l'étranger. Si j'avais une décision à prendre qui était importante, il me fallait un petit retour de sa part, je pouvais carrément me connecter et la voir en quelques minutes. Donc ça, c'est ce qui a facilité depuis 45 ans maintenant la mise en œuvre du partage d'emploi, du partage de poste, qu'on appelle le job sharing.
Merci. Irinka Kronet, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en Suisse, le job sharing, il a quelle ampleur ?
Très, très bonne question. On a fait une première étude en 2014 avec une haute école à Olten. Et là, on a pu voir que 25% des entreprises aujourd'hui appliquent le job sharing déjà. Mmh. Ils ont plusieurs exemples, pas beaucoup encore, mais plusieurs exemples, dont un quart le font déjà au niveau top sharing, dans des positions de conduite. Maintenant, il y a quelques années, l'Office fédéral des statistiques a fait des premières statistiques sur ce domaine. Et on a pu voir que 10% des travailleurs à temps partiel font déjà un job sharing. Mais ça représente que 40% de la population active. C'est encore trop peu. Maintenant, dans un an, on aura les prochaines statistiques qui sortiront après 5 ans. Et nous espérons, en tant qu'agence de promotion de ce modèle, qu'on aura le double de cette quantité. Parce qu'il faut savoir, la Suisse est un paradis pour le job sharing. Pourquoi ? Parce qu'on a un tiers des personnes actives déjà aujourd'hui qui travaillent à temps partiel. Et pour être encore plus concrète, 6 femmes sur 10 font du travail à temps partiel en Suisse, alors qu'on n'a que 2 hommes sur 10. On a en fait une très grande différence entre hommes et femmes, mais on a un marché très propice, puisque un job sharing représente quand même une position à temps partiel. J'ai commencé, moi, à l'époque, par un 50%, ensuite j'ai eu un 60%. On a différents taux d'activité, mais on a une activité à temps partiel.
Est-ce que le job sharing, c'est d'abord justement pour les femmes, pour les mamans qui veulent rester dans le monde du travail, mais avoir du temps aussi ?
Alors, au départ, il y a à peu près 8 ans, quand on a débuté, c'était une question qu'on nous posait tout le temps. C'est plus plutôt une question de femme, de temps partiel et tout, eh bien, ça a complètement changé. Mmh. Et ça me rend personnellement très heureuse. Mmh. Pourquoi ? Parce que c'est plus du tout une question de genre aujourd'hui. La génération plus jeune, ce qu'on appelle la génération Y et Z, hein, mmh. ceux qui sont aujourd'hui entre 20 ans et 30 ans, hein, si je fais un petit mix génération Z, ils sont avides de temps partiel aussi pour une conciliation. Et beaucoup d'hommes. Et ce qui est intéressant, même les hommes plus âgés, se tournent vers là parce qu'ils réalisent qu'ils peuvent garder une carrière, faire une carrière à temps partiel avec un collègue et partager le pouvoir. D'éviter ce qu'on a toujours appelé la solitude du chef. Un des plus grands problèmes mm-hmm. sur le marché d'emploi. Et c'est ça qui rend attractif et qui fait aussi que de plus en plus d'hommes s'y intéressent.
Alors, peut-être, Irenka, une toute petite parenthèse aussi. Voilà, sur les employés qui ont plus de 50 ans, est-ce que le job sharing, c'est aussi... On sait que quand on perd son travail à cet âge-là, c'est extrêmement difficile, le chômage, etc., retrouver un poste. Le job sharing, ça pourrait apporter des solutions ?
C'est une excellente question. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui, dans cette période très difficile du Covid, où on aura un sous-emploi, on le voit maintenant venir avec la dernière vague. Mm-hmm. On a encore les RHT, on a différentes solutions, mais un jour, on va passer de plus en plus au licenciement. Et nous avons débuté il y a un an et demi aussi avec un nouveau concept qui vient aussi des États-Unis qui s'appelle WorkShare, qui signifie partage de l'emploi maintenant, pour éviter qu'on licencie toute cette population de gens de 50 ans et plus, qui une fois licenciés ont très peu de chances de retrouver un emploi, pour les préserver au sein d'entreprises, de réallouer les équivalents plein temps mmh. et de laisser ces personnes à 50 avec un partenaire encore dans l'entreprise. Donc ça fait quand même diminuer le pourcentage de gens occupés, mais ça permet une répartition du capital humain. Et ces personnes-là peuvent être après beaucoup plus attractives pour retrouver un emploi ailleurs. Parce qu'à 50 ans, si vous perdez votre emploi, c'est extrêmement difficile, quoi. Surtout quand c'est une situation qui est liée au Covid, comme mmh. aujourd'hui.
Donc pour vous, finalement, le job sharing, c'est vraiment la solution gagnante pour le
Alors,
futur ?
Alors, c'est une des solutions. C'est pas la solution, parce qu'il faut être un petit peu différencié par rapport à ça. Mais c'est une des solutions qui est en Suisse. Et vous savez pourquoi c'est intéressant aussi ? Parce qu'on est dans un pays qui a des salaires très élevés. Mmh. Il y a beaucoup de pays à l'étranger qui s'y intéressent aussi, hein, dans les pays, je pense, de l'Est, par exemple, mais qui n'ont pas un salaire suffisamment élevé pour pouvoir réduire le taux d'occupation. Mais en Suisse, on a déjà aujourd'hui un tiers de la population en temps partiel. Et là, c'est une optimisation du temps partiel, d'où notre nom, hein, PTO, Part-Time Optimization, pour permettre à l'employeur, maintenant, d'avoir de la main-d'œuvre, mmh. hein, donc une main-d'œuvre qui soit là et qui soit toujours là, et pas seulement du lundi au mercredi, mais par contre sur la semaine entière, pour être aussi plus productif.
Est-ce qu'on peut parler un peu, parce que c'est vrai que là on parle surtout du timing et du sharing, mmh. mais du travail en lui-même, quand on partage un poste, mmh. qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, tout à fait. C'est ce que je disais un petit peu au début par rapport à au concept de partage. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut faire du job sharing. Pour revenir aussi un petit peu à ça, il y a des conditions de base, parce qu'il faut une grande flexibilité, surtout un esprit qui soit fait pour ça. À deux, vous construisez quelque chose ensemble, vous n'avez aucune concurrence, hein, c'est de la co-responsabilité. Dans une équipe de travail, vous êtes avec des collègues, mais il y a toujours un petit jeu de concurrence. En job sharing, vous êtes à deux, une vision commune, un chemin commun que vous allez prendre, et vous allez beaucoup, beaucoup apprendre de l'autre. Je présenterai au TED Talk demain aussi les cerveaux, hein, la juxtaposition de cerveaux, parce qu'on est tous limités finalement. Et dans l'échange qu'on a à deux, c'est toujours une étape de plus. Donc le job sharing va presque au-delà d'un concept, comme vous avez dit avant, de timing, hein. C'est beaucoup plus un nouveau paradigme de l'emploi.
Mais est-ce que ça ne peut pas justement vite tourner en compétition ?
Alors, au sein du duo, c'est impossible parce que c'est une des conditions de base. Quand vous postulez en job sharing, on fait aussi beaucoup de coaching, on coach des duos hein, qui postulent, on doit parfois dire aux personnes, quand on sent qu'il y a ce qu'on appelle un mâle alpha ou une femelle alpha qui cherche le pouvoir pour soi-même, on doit leur dire, écoutez, c'est pas le concept. Mm-hmm. Vous allez travailler ensemble et parfois, on doit juste se taire, on peut pas toujours tout accepter ou plutôt tout faire de ce qu'on voudrait faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment deux cerveaux qui fonctionnent ensemble. S'il y avait une concurrence, alors il y a une dissolution. Oui. On en a eu une fois dans notre historique du coaching où on a dû clairement dire aux personnes que c'était plus vivable en fait. Et là, ils ont dû dissoudre leur partage de poste.
Le job sharing, c'est 50-50 ou on peut imaginer un poste 30-70 ou 60-40?
Alors, souvent, quand on voit une annonce à 100%, les gens postulent sur du 50-50. Mais dans la pratique, le plus fréquent, c'est du 60-60 ou du 70-70. Ça ne veut même pas du tout dire que l'entreprise paye les coûts d'information à cette différence de taux? Non, pas du tout. C'est que les jobs sharers vont faire en fait leur poste ensemble à 50-50, mais ils auront souvent des tâches opérationnelles qui ont été définies en redéfinissant les équivalents plein temps, quoi. Et à la fin, l'employeur en profite parce que même les suppléances s'intègrent souvent. Il n'y a plus besoin de suppléances. Pas toujours, mais souvent, c'est le cas. Donc, on retrouve, pour répondre à votre question, tout plein de taux différents. Le plus fréquent, 60-60 ou 70-70.
D'accord. Et si on parle un peu des employeurs, parce que là, on parle beaucoup du confort que ça peut apporter en tant qu'indépendant ou employé. Pour l'employeur, c'est quoi la plus-value du job sharing?
La première plus-value, c'est certainement la productivité. On a fait différentes analyses au niveau économique sur le rendement. Dans les services, la productivité se mesure difficilement. Comment vous voulez mesurer ce que vous faites au niveau de vos courriels ou de vos partages de documents. Par contre, on sait qu'à partir de 70%, c'est-à-dire que le quatrième jour de travail sur du 100%, l'être humain commence à avoir un rendement plus faible. Et dans un job sharing, vous avez une énergie doublée. Donc la productivité, c'est l'une des plus grandes forces du job sharing. Et on le remarque même quand vous avez ce qu'on appelle ces hauts et ces bas dans le travail. À un moment, vous êtes un peu découragé, vous avez un petit peu marre de ce que vous faites. Alors le partenaire ou la partenaire reprend. La suppléance aussi, il y a toujours quelqu'un qui va suppléer, il y a beaucoup moins d'absentéisme lié aussi aux maladies. Là, en ce moment, je suis ici à la radio avec vous, ma collègue, elle travaille dans au siège où nous travaillons actuellement. Et puis, l'autre avantage qui est très important, c'est la rétention de talents. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont eu des femmes qui ont entre 25 ans et 30 ans, brillantes, qui font une très belle carrière, qui reprennent un poste à responsabilité et tout d'un coup, elles ont la trentaine, c'est l'âge moyen du premier enfant. Puis elles vous disent, voilà, écoutez, moi, je vais maintenant me retirer un petit peu, c'est ma nouvelle vie. Alors, c'est une très grande perte, parce que le capital humain est là, le potentiel est très fort, et il faut les retenir. Et le job sharing permet après d'éviter un temps partiel simple, qui n'est pas souvent applicable dans certains postes, mais d'avoir cette position-là. Et les grandes banques en Suisse, les médecins aussi, on coach aussi pas mal de médecins, font ça aujourd'hui, où il y a plus de femmes que d'hommes sur le marché, là ça devient un modèle extrêmement intéressant pour les retenir.
Oui. Est-ce qu'il y a des domaines alors où le job sharing est très très représenté?
Dans l'étude qu'on a faite, on a pu voir ça. Donc les domaines où on le voit le plus fréquemment, ce sont donc dans les services par rapport à l'industrie, dans le milieu des télécoms, dans l'enseignement. Si vous prenez toutes les écoles primaires, combien de profs sont en job sharing dans l'enseignement? Aussi beaucoup de job sharing qui sont entre générations, intergénérationnelles, avec 10 ans d'écart, où il y a un transfert de savoir très beau. Il y a par exemple aussi dans le domaine de la recherche, beaucoup. Après, on va plus loin. Nous, on coach des banques. En Suisse, c'est toutes les grandes entreprises, pharma, dans la pharma, les télécoms, la poste, les CFF. Tous mettent maintenant sur pied des mesures de promotion et aussi d'aide, d'accompagnement pour permettre à des jeunes personnes de pouvoir se profiler. Et ce sont des hommes comme des femmes, aussi des jeunes hommes qui ont une épouse ou une partenaire ou un partenaire qui tout d'un coup veut aussi faire quelque chose dans sa vie d'intéressant. Donc, tout est du partage. Et le dernier point, madame, que je vais quand même soulever, c'est le job sharing at home.
Oui.
C'est ce qui se passe à la maison. Et on sait au niveau statistique où est l'ampleur du travail. Et le job sharing au travail permet aussi un meilleur équilibre au niveau du domicile. Et ça, c'est un point très important. Notre pays qui est encore très conservateur à ce niveau-là.
Mais vous êtes, quand je vous entends aussi parler de tous ces domaines où il y a beaucoup de job sharing, c'est plus difficile dans des entreprises moins importantes?
Oui, tout à fait. C'est très bien que vous souleviez ça. Les PME, alors on fait du coaching depuis des années maintenant. On touche beaucoup les offices publics, l'administration, qui sont très en avant par rapport à ça. On touche aussi les grandes firmes qui nous contactent fréquemment, donc qui ont beaucoup de moyens, qui ont des RH, des responsables, tout ce qui est donc des responsables du personnel. Par contre, ce qu'on a plus de peine à toucher sont les PME, parce qu'elles ont moins de moyens. Elles n'ont souvent pas toujours des responsables RH. Et dans ce domaine-là, ça ferait beaucoup sens, même pour les successions de PME. On a eu des cas, par exemple, de succession où le patron a de la peine à trouver quelqu'un et là, le modèle passe très bien parce que c'est comme un transfert au début entre lui et quelqu'un de plus jeune et puis ensuite une reprise totale. Donc les PME, on les invite fortement aussi plus à tenter le modèle, déjà avec des premiers cas.
Une petite question qui me vient comme ça aussi, et là je pense plutôt aux indépendants. C'est aujourd'hui reconnu, c'est entre guillemets, je ne sais pas, légal le job sharing. Il y a des normes juridiques qui font qu'aujourd'hui on fait un contrat de travail, on a une situation de job sharing qui est reconnue.
Alors dans le code des obligations, il n'y a encore aucun statut sur le job sharing. Tout se réfère, tout contrat qu'on a, au temps partiel, qui est lui donc statué, donc où on le retrouve au niveau juridique. Alors ce qu'on remarque maintenant, c'est que ce que nous on conseille aussi, les accords, les contrats sont clairement souvent indéterminés, c'est-à-dire que c'est du temps partiel, c'est pas du tout déterminé comme tranche donc de période, et on rajoute un avenant qui va spécifier les différentes modalités du job sharing, du partage de poste. Mais le contrat reste principalement un contrat de type temps partiel.
Très bien. J'aimerais qu'on revienne maintenant aussi à ces deux sites internet, goforjobsharing.ch et puis wejobshare.ch. Donc il y a une association et puis une start-up. Ça veut dire que vous êtes là pour renseigner les gens. Vous avez parlé de coaching tout à l'heure. Vous vraiment mettez des choses en place pour faire connaître, de faire fonctionner le job sharing?
Tout à fait. La plateforme donc PTO, qui s'appelle Part-Time Optimization, elle vise vraiment à transférer le savoir. Que ce soit au niveau de la littérature, au niveau du coaching, on fait même des speed datings, pour employer un terme anglais de nouveau, des rencontres de personnes, des partenaires. On fait des conférences, beaucoup de conférences, pour expliquer comment fonctionne, quelles sont les conditions du job sharing. Tout ce qui est en lien avec le transfert de savoir sur le sujet, quoi. Et de l'aide pour pouvoir le mettre en œuvre. Et oui, job share, c'est comme Tinder, c'est comme Parship, c'est vraiment une plateforme de mise en lien qui est gratuite. Donc WeJobShare, pour toute personne intéressée, peut insérer son profil et tout se passe par algorithme. Ouais. Vous mettez vos besoins, vous mettez votre recherche et vous trouvez différentes options. Mais le virtuel n'est que la première phase. Tout se passe dans le réel comme sur les plateformes de mise en lien. Après quelques échanges par email, vous rencontrez votre partenaire. Vous ne devez pas connaître la personne avant de postuler ensemble. Moi, je ne connaissais pas ma partenaire en job sharing quand j'ai commencé aux échos. Vous devez surtout voir si la vision que vous avez, que vous portez ensemble, est la même, et si vous sentez les mêmes compétences qui pourraient fonctionner ensemble.
J'ai vu aussi, par exemple, sur le site, que ce n'est pas forcément conseillé de se mettre en job sharing avec une amie, avec quelqu'un qu'on connaît bien déjà.
Oui, c'est comme quand vous construisez une maison. Si vous construisez une maison, il y a toujours un peu un risque. Vous êtes plein d'enthousiasme et tout, et quand vous commencez le travail, vous remarquez qu'il y a des différences d'opinion. C'est pour ça que je pense que le risque est un petit peu moins fort. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que beaucoup de duos se connaissent vaguement par le travail déjà. Ils ont collaboré sur un projet et se sentent aussi plus sûrs parce qu'ils se disent « Ah, j'ai déjà travaillé avec lui ou avec elle, donc je peux me lancer. » Mais être ami, c'est vraiment pas vraiment indiqué parce que ça peut des fois changer en cours de route, quoi. Et surtout qu'il y a après peut-être d'autres attentes qui se mélangent. Nous, on se connaissait pas et on est devenus amis au travers du job sharing, ce qui est quand même plus sympa. Alors, c'est ce qu'il y a une dissolution d'amitié.
Absolument. C'est ce que j'allais vous demander, vous. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez en job sharing, vous
13 l'avez dit ans. 13 ans. Avec 4 partenaires différents.
C'est ça.
Et ma première partenaire, Anne de Chambrier, avec qui j'ai fondé après l'association, parce qu'on a tellement apprécié ce modèle, on était 9 ans ensemble. On ne se connaissait pas, mais on est devenus amis au travers de tout ça. Et actuellement, ma collègue actuelle, Nina Proratsk, avec qui je travaille aussi, là, on a travaillé déjà ensemble au SECO et on est partis ensemble pour ça. Donc, on a un peu de tout, tous les modèles différents.
Ouais. Mais en général, des liens forts.
Des liens très, très forts. Et c'est très beau, cet échange intellectuel pour le travail, mais aussi après au niveau de ce qu'on vit. C'est des phases de vie aussi, le partage d'emploi. Hein. Des phases profondes où on voit différentes choses et qu'on vit ensemble. Le partage.
Très bien. Irène Cacronet, je rappelle que vous serez demain soir donc, sur la scène de Frisson. C'est vous qui allez ouvrir cette édition 2021. Et puis, sans vouloir tout dévoiler, visiblement, vous allez proposer aux gens qui vous regardent de prendre l'avion.
Oui, on va prendre l'avion ensemble. On va un petit peu s'envoler. On a besoin, je crois, aujourd'hui, un petit peu de décoller de nouveau. Et je pense que ce sera important de faire ce parcours du partage d'emploi dans les airs. Et vous verrez, surprise, on aura, si tout fonctionne au niveau de la technique, une petite surprise, outre-Atlantique. Voilà, je ne raconte pas plus. Non. C'est à demain et j'espère qu'on verra beaucoup de personnes en ligne.
Merci infiniment d'être venu nous voir pour partager tout ce savoir autour du job sharing, Irène Cacronet. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Surtout à vous. Merci.